qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Une année de 7 mois, c'est celle réduite de l'exploitation des écrans en 2021. 30% de spectateurs en moins dans les salles. Tout cela fait très mal au cinéma. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Oui, 5 mois dans la vue et le report de nombreux films à la rentrée de septembre. Du coup, c'est l'embouteillage. Bonjour Samuel Douer.
Bonjour.
Rédacteur en chef cinéma Télérama. Avec vous, nous reviendrons sur ce marché français où même un film comme Aline n'est pas le super carton annoncé. En 5 mois, pourtant, il y en a eu de belles propositions de cinéma. Vous avez fait votre choix, Samuel, tout comme vous. Bonjour, Jordan Minzer.
Bonjour.
Correspondant du Hollywood Reporter. Vous êtes tourné cette année l'Américain vers l'Iran et 3 grands films. Et bienvenue, Alex Vicente.
Bonjour.
Pour El País, défenseur d'un certain Pedro Almodovar, entre autres. Tous les 5, nous défendrons nos coups de cœur en vous offrant en prime des idées de DVD, coffrets, livres et bandes originales. Enfin, les sorties nombreuses de la semaine de Françoise Fabian à Steven Spielberg. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Bonjour, c'est nous les Tuches.
D'après.
On est de retour à Bouzol.
Travailler ?
C'est nul !
Exactement !
C'est le moment de préparer Noël en famille.
Dis-moi ce qui se passe, moi je suis couru.
Je voudrais que ma sœur soit là aussi.
Le problème, c'est son mari, ce con Jean-Yves.
Oh oui, oui, ça va. Vous êtes chamaillés, là, tous les deux, là, pour des conneries, il y a 10 ans.
Alors, Marteau, t'aimes toujours autant travailler?
Je me régale, ces magasins.
Une fois, j'ai commandé une pizza chez Magazone, ils m'ont jamais livré. C'est une pizza à 8 fromages, enfin, 2 pizzas, 3 fromages.
2 fois 3, ça fait 6.
Prouve-le.
Non.
Vous voulez rabibocher, les beaux frères ennemis?
Qu'est-ce que je disais déjà?
Moi, j'écoutais pas.
Non.
Ça va être long.
Et oui, Les Tuches 4, une sortie pour Noël si bien calibrée, à savoir que le premier avait fait 1,5 million, le deuxième 4,6 millions, le troisième 5,6 millions. Les Tuches au secours du cinéma français, Samuel Douer.
C'est ce qu'espère en tout cas le cinéma français. Ça démarre pas si bien que ça. Enfin, le film démarre correctement, ouais. Hein, mais il n'atteindra sans doute pas les chiffres du troisième, ce qui confirme un petit peu la baisse de fréquentation globale dans les salles françaises depuis la réouverture des salles en mai.
Ce qui est dingue dans Le Parisien, qui faisait sa une sur Les Tuches avec 2 pages à l'intérieur, cet éditorial mea culpa qui redécouvre Les Tuches maintenant, et je vous lis, là, il y a vraiment, ça s'invente pas. Il y a quelques jours, une session de management nous a prouvé, extrait à l'appui, que le patriarche était un formidable meneur de troupes, réaliste, pragmatique et motivant. On n'y avait pas pensé. C'est fou, non?
Oui, mais c'est la de la crise. C'est pas bon, après,
c'est quand même dingue, non?
Bah, Les Tuches, c'est le genre de film qui dépasse le cinéma. C'est-à-dire, oui, c'est un phénomène de société. Ça exprime, en tout cas, ça témoigne un peu d'un certain état de la France ou d'une certaine idéalisation d'une certaine France. Voilà, c'est pour nous, effectivement, en tant que critique de cinéma, on est un peu démunis face à ce genre de film. Déjà parce qu'on peut pas les voir avant la sortie. Mmh. À moins de glisser dans des avant-premières quand on arrive à avoir des places, des avant-premières destinées aux spectateurs lambda.
En agent secret.
Et voilà, comme des agents secrets, tout à fait. Et puis derrière, effectivement, c'est pas, alors, Les Tuches, c'est pas le pire de ce que peut faire la comédie française. Ça peut être assez amusant parfois. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pas, on n'y va pas pour voir un grand film de cinéma, on y va pour une comédie, éventuellement un petit phénomène de société.
200 millions d'euros par an pour le cinéma français de la part de Canal+, c'est une bonne nouvelle?
Alors oui, c'est un peu inespéré, ouais, pour le cinéma français qui quand même depuis un an et demi tire la langue à cause de la fréquentation des salles en baisse, de la fermeture, ouais, des salles. Alors c'est un cadeau peut-être un petit peu empoisonné, ouais, aussi, parce que Canal+, certes, donne plus d'argent que prévu, mais avec des conditions plus draconiennes qu'autrefois. C'est-à-dire qu'il ferme un peu la porte quand même à l'arrivée des plateformes des plateformes type Netflix, qui vont donner de l'argent, mais qui vont avoir des conditions très strictes pour pouvoir donner cet argent. Et surtout, Canal+, désormais, pourra être non seulement diffuseur des films, mais aussi coproducteur de certains films. Donc c'est un peu le donnant-donnant. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de donner plus d'argent, mais en échange de contrepartie. Ça donne quand même 3 ans de visibilité importante pour le cinéma français et qu'on avait besoin.
Et ils ont obtenu de raccourcir le délai de diffusion des films,
oui,
aussi.
Ça, c'est pas, à mon avis, c'est pas un problème. Il y avait encore quelques exploitants, les gros exploitants qui râlaient en disant on perd un petit peu notre prérogative. Il faut savoir quand même que la carrière des films, à 99%, elle est faite dans les 3 mois du film. Oui. Donc si on peut montrer un film 4 mois après, c'est absolument pas un problème.
Comment ça se passe aux États-Unis, Jean Minzer, au niveau des salles?
Toujours assez mal. Un peu mieux qu'avant quand même, parce que depuis plus ou moins l'été, toutes les salles sont ouvertes aux États-Unis, parfois avec des restrictions, des règles différentes selon l'État. Mais on est quand même à plutôt 50% de moins de box-office par rapport aux années pré-Covid. En même temps, pour la plateforme, c'est génial parce qu'on est à plus... j'ai regardé un peu les chiffres. Netflix, il y a plus 35% de abonnés, donc 65 millions de plus depuis le début de Covid. Et Disney+, 120 millions d'abonnés de plus depuis le lancement de Disney+, qui était novembre 2019. Et toutes les plateformes combinées, on a aussi HBO Max, on a Apple... Amazon et puis Netflix et Disney, ils vont sortir entre toutes les plateformes 100 films en 2022. Donc des films qui vont sortir plus ou moins exclusivement sur la plateforme.
Oui.
Sachant quand même que les studios, ils n'ont pas renoncé aux salles parce que c'est quand même là où ils peuvent gagner de l'argent sur leurs films. Donc Disney, par exemple, ils vont continuer à sortir leurs films en salle avec une fenêtre peut-être de 45 jours, ça dépend, pour se mettre après sur la plateforme. Mais la politique pendant Covid, on peut dire, de sortir le film que sur la plateforme, c'était le cas de HBO Max avec Warner Brothers. Ça, ils ont renoncé à ça parce qu'ils ont dit quand même que ça, si un film peut être en salle, ça peut gagner 20 fois, 30 fois plus d'argent que sur la plateforme.
Disney, vous en parliez juste avant, a fait très fort avec ce documentaire sur les Beatles.
Oui, c'est alors là c'est la force de frappe de Disney qui non seulement présente des films d'animation, les films Marvel, et de temps en temps il y a des pépites comme ça, ce film de montage extraordinaire qu'a fait Peter Jackson à partir de 60 heures de rush qui avait été tourné en 69 sur la répétition d'un show télé qui n'a pas vu le jour et qui s'est terminé par le fameux concert semi-improvisé sur les toits de l'immeuble Apple à Londres.
Alex, comment ça se passe en Espagne ?
En Espagne ça se passe très mal aussi, les salles se portent très mal, on estime les exploitants estiment la baisse de 50% à peu près des spectateurs comme aux États-Unis.
Il y a eu des fermetures définitives comme aux États-Unis de salles
En 2020, oui. En 2021, les salles sont restées ouvertes. Donc, ce qui aggrave encore plus la situation, c'est que les salles étaient ouvertes et pourtant, elles étaient vides, comme vous le dites. On a juste les chiffres qui concernent le cinéma espagnol, des chiffres officiels. Le cinéma espagnol finira 2021 sous la barre de 6 millions de spectateurs. Donc, c'est un minimum historique. C'est encore moins bien qu'en 2020, et c'est dire. Et si on compare avec les chiffres de 2019, cette année-là, le cinéma espagnol avait attiré 16 millions de spectateurs. Cela voudrait dire une perte de 10 millions de spectateurs en 2 ans. Et en plus, les salles étaient ouvertes, sauf quelques fermetures ponctuelles dans certaines régions. Donc voilà, c'est une situation vraiment très dramatique.
Notre Américain, lui, pour lui, en 2021, c'était plutôt du côté de l'Iran.
هرچی ازت میپرسم اگر درست جواب ندی خودتو زنت میرین زندان بچهات هم یه راست بهسیست
من اسم میخوام
ناصر
ناصره؟
خاکزاد
Oui, la vague iranienne n'en finit pas de déferler, c'est incroyable, elle est née après la révolution de 79, elle a éclaté en 1990, il y a eu cette palme d'or pour Panahi, pour Kiarostami, ensuite se sont révélés Panahi, Gobadi, enfin des cinéastes nés ensuite après ou pendant la révolution, et ces 3 films cette année, dont cette énorme surprise dont on entend la BO, Jordan, c'est la loi de Téhéran, il a 32 ans ce garçon, il s'appelle Saïd Roustahi, c'est haletant, intense, politique et sur la drogue en Iran, et c'est 2 très grands portraits d'hommes, un flic et un dealer.
Mais oui, et surtout, je pense que c'est une espèce de, pour moi, peut-être c'est le seul réalisateur de une nouvelle vague, on peut dire, de cinéma à la fois du genre, parce que c'est un très très grand film, un très grand polar, le meilleur polar que j'ai vu cette année, depuis plusieurs années, et aussi un film qui confond plus frontalement la corruption, les problèmes politiques et le problème de la peine de mort en Iran. Donc je pense que par rapport à la génération d'avant qui était obligée un peu contourner la contestation directe pour que leur film sorte, c'était dans plus de subtilité. Ce film-là, on est beaucoup plus frontal, aussi dans la violence, dans l'action, dans le portrait dans l'Iran quand même, avec des millions de drogués, de crackheads qu'on voit dans le film, qui sont d'ailleurs joués par de vrais drogués, oui, qu'il a pu caster dans le film.
Et puis il y en a un qui est un petit peu plus vieux, il s'appelle Rasoulov, vous évoquiez la peine de mort, il l'évoque dans ce film immense, dont on a déjà parlé, Laurent, oui, qui s'appelle Le diable n'existe pas.
Oui, et ça c'est intéressant parce que lui, on sent qu'il est un peu entre les deux générations, parce qu'il y a un côté où c'est quatre histoires dans le film, et chaque histoire c'est un genre différent, mais on a quand même donc au début on a une espèce de genre très réaliste qu'on a déjà vu dans le cinéma iranien, où on a l'impression qu'il y a rien qui se passe, sauf que à la fin de ce début on comprend que le monsieur qu'on a suivi
interdiction totale de révéler la fin de ce premier épisode.
Ça va, c'est pas James Bond.
Non.
Oui, c'est beaucoup mieux.
C'est beaucoup plus intriguant.
Mais ce qui est intéressant, que de ces gens au début qui est plutôt réaliste, quelque chose qu'on a déjà vu dans le cinéma iranien, dans la deuxième histoire, on va plutôt dans un film d'action presque.
Oui.
Donc à chaque fois, ils changent de genre. À chaque fois, c'est pour questionner la peine de mort. Est-ce que ça fait en Iran.
Puis il y a un troisième film qui s'appelle Hit the Road, du fils de Panahi. Lui, il s'appelle Pana Panahi, il a 37 ans. On l'a découvert à Cannes cette année. Iran de nos jours, une famille est en route vers une destination secrète. À l'arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s'est-il vraiment cassé la jambe? La mère rit de tout. Et puis le petit garçon, lui, ne cesse de blaguer, de chanter, de danser. Le chien est malade, seul le grand frère reste silencieux. Très intriguant.
Oh mais, et oui,
Hit the Road, ça s'appelle.
Et oui, et surtout, on voit un cinéaste qui va se libérer, ou qui va mettre un peu de distance entre le cinéma et son père, et ce qu'il lui va essayer de faire, il va vers autre chose qui est plutôt... Il y a des effets spéciaux, par exemple, qu'on n'a jamais vu dans le film iranien, vraiment, le cinéma iranien traditionnel d'avant. C'est aussi un film sur un fils qui va se libérer de son père. Donc c'est, pour moi, c'était très symbolique. Je trouvais aussi que le film soit pas en compétition à Cannes, un peu scandaleux, parce que pour moi, c'était le grand film que j'ai vu à Cannes cette année. Et c'était à la quinzaine, mais
sans
ça
exagérer.
Ça va sortir en avril. Non, mais j'étais vraiment impressionné, surtout pour un premier film. Mais on a l'impression qu'il a pris son temps. Il a 37 ans. Il était l'assistant de son père, l'assistant réel pendant assez longtemps, mais elle a pris son temps surtout pour trouver un sujet qui collait à ce qu'il voulait faire, encore un film sur une génération qui va prendre dessus sur la génération d'avant qu'on est tous de cinéma iranien.
Comme le cinéma iranien, une histoire, un film dans une voiture rouge.
Takatsuki Koshi, c'est Astro 100 qui vous souhaite.
À toi.
Sokomade. Arigato.
Ça s'appelle Drive My Car, c'est un metteur en scène japonais qui s'appelle Ryusuke Hamaguchi. L'histoire d'un metteur en scène de théâtre qui vient de perdre sa femme avec sa conductrice à Hiroshima, des échanges qui vont peu à peu dévoiler leur passé, Alex Vicente.
Tout à fait, c'est un film d'une finesse absolue où Hamaguchi atteint un niveau de maîtrise de mise en scène, de profondeur, de complexité qu'on n'avait pas vu dans ses films précédents. Je pense que c'est l'un des réalisateurs qui m'intéresse le plus dans le cinéma actuel, sachant qu'il a que 42 ans, je pense, donc il a encore plein de temps pour faire des chefs-d'œuvre, dont celui-ci. Comme vous dites, ça part d'un metteur en scène, un personnage en deuil, un personnage qui a perdu sa femme, qui est en peine et dont la peine s'adoucit petit à petit au fur et à mesure qu'il prépare sa nouvelle mise en scène, sa nouvelle pièce de théâtre. Du coup, il y a un parallélisme très beau entre l'art et la vie, où la figure du metteur en scène est utilisée comme un symbole d'un homme ou d'une femme d'ailleurs, qui doit composer avec les difficultés de la vie et qui surmonte ces difficultés en arrangeant la réalité, en arrangeant sa réalité, comme il arrangerait une mise en scène. Et c'est une idée qui est présente aussi dans son nouveau film qui s'appelle Contes du hasard et autres fantaisies, qui sortira en France en avril 2021 où plusieurs personnages...
22,
le temps passe. Le temps passe vite. Dans ce film, plusieurs personnages se servent aussi de la fiction pour se consoler ou pour se sauver.
Pareil, c'était génial aussi, Sensis et Asako, pareil.
Aussi, oui. Mais je trouve qu'ici, il passe à une vitesse supérieure.
Une maîtrise.
Moi, j'aime beaucoup Sensis et j'aime beaucoup Asako 1 et 2, mais celui-ci, je le trouve encore mieux. Et le prochain, il est du même niveau.
Alors celui-là, il s'appelle Hit the Road, Drive My Car, et il est à l'affiche en ce moment en France. Mm-hmm. Et sinon, il y a un cinéaste espagnol que vous aimez bien.
Bon, inconnu. Hein.
Oui, on va passer une bonne annonce en français.
J'aimerais vraiment avoir un enfant avec toi, Janice. Crois-moi. Mais je ne sais pas si je peux me le permettre en ce moment.
Il ne s'agit pas de savoir si on peut se le permettre ou non. L'enfant est déjà là.
Mon Dieu.
La démissionne, t'es peur en direct.
Je démissionne.
Il dépend du plein.
C'est ça.
Je suis pas seule, j'ai ma mère.
Bonjour, Trésor.
Oh là là là.
On dirait un soap opéra.
Non, mais c'est
bon, alors, on arrête.
On arrête, s'il vous plaît, merci.
Donc, Madresse Parallelas, donc deux femmes enceintes dans un hôpital. L'une d'âge mûr, l'autre une adolescente effrayée, et par-dessus un autre thème politique, historique, c'est celui des charniers. Sous Franco, on l'avait parlé avec Laure, on est un peu perturbé par ces deux croisements, d'autant que cette période historique est évoquée au tout début et à la toute fin, et entre les deux, c'est un film d'Almodovar.
Alors, je vous explique.
Merci, Alès. On ne mourra pas idiot grâce à vous. Allez-y.
Non, c'est vrai qu'on a dit que les deux histoires ne collaient pas. Pour moi, il y a un lien subtil, mais
c'est pour ça qu'on n'a pas vu.
Il faut être espagnol, je pense, pour lui
comprendre. C'est ça.
Personne n'est parfait, désolé. En tout cas, il y a un moment, je sais pas si vous vous en souvenez, où Penélope Cruz, le personnage de Penélope Cruz, dit au personnage d'Anna, la jeune fille avec laquelle elle partage sa vie, qu'il faut qu'elle sache ce que ses ancêtres ont fait pendant la guerre, ce que sa famille a fait pendant la guerre. Mmh. Parce que c'est ce personnage de jeune fille, elle considère que l'histoire, c'est du passé, que ces histoires de guerre civile en Espagne, ça n'appartient plus du tout au présent et que ça n'a aucun intérêt. Du coup, le personnage de Penélope Cruz lui fait tout un speech et, dans la foulée, elle sort dans la terrasse, elle fume une cigarette, elle finit par lui avouer le secret, sans faire de spoilers, le secret qu'elle porte depuis des mois. Du coup, il y a un lien assez clair dans le film, entre les deux histoires, qui partagent le même besoin de vérité, le même besoin de regarder la réalité en face pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est comme si le personnage de Penélope Cruz refusait de commettre les mêmes erreurs à son échelle individuelle ou personnelle que le pays a commis par le passé sous la dictature.
Non, mais il faudrait cette notice avant le film. Bah,
je peux faire tous les tours des séances en France.
C'était maître à la vicinité du barreau de...
Non, pour être honnête, c'est pas moi qui interprète, c'est Almodovar aussi qui en a parlé, et qui, parce que voilà, en Espagne aussi, c'est une critique qu'on a entendue très souvent. Ouais. En Espagne, où le film a moyennement marché, on a souvent entendu que les deux histoires ne collaient pas, et du coup, il s'est senti obligé à donner quelques clés de compréhension. Sur ces terrains-là, c'est un film profondément politique, car il faut savoir qu'il est sorti pendant que le gouvernement espagnol essayait de faire adopter une loi qui reconnaîtrait les crimes commis sous la dictature, ce qui reste un sujet explosif en Espagne, car il faut savoir que le passage en démocratie en Espagne se fait sous le pacte de silence, donc sous l'idée de tout oublier, de tout laisser en arrière pour rentrer dans la modernité démocratique. Donc sur cette de ce point de vue-là, c'est un film très politique.
Madres Paralelas. Sinon, la plus belle surprise française, de mon point de vue, de cette fin d'année, c'est un film qui s'appelle Illusion perdue de Xavier Giannoli.
Dans un monde livré à la loi du profit, où les commentaires sont à vendre, où plus rien n'est sincère, où la seule chose qui compte, c'est est-ce qu'on va faire le buzz, comme on dirait aujourd'hui, peut-être que la valeur intrinsèque des choses se perd.
Si le livre est émouvant, tu dis qu'il est complaisant. S'il a un style classique, il est académique. S'il est drôle, il est superficiel. S'il est intelligent, il est prétentieux. S'il est inspiré, il est racoleur. Et puis tu déroules.
Si le récit est bien construit, il est prévisible. Si l'auteur a du style, c'est pour cacher qu'il n'a rien à dire.
Illusion perdue de Xavier Giannoli, encore à l'affiche, bien sûr, il marche fort bien. Ou comment Samuel Duer réussir un film en costume adapté de Balzac, si moderne dans son discours, tenu par d'immenses comédiens, dans une réalisation flamboyante.
Vous l'avez dit, c'est vraiment une des très bonnes surprises de cette fin d'année. Bah, Xavier Giannoli, moi, ça fait quand même 3 films que je trouve qu'il arrive à faire à la fois un cinéma d'auteur très ambitieux et très grand public, très populaire dans le bon sens du terme. C'est très bien raconté, une mise en scène formidable, très très bon directeur d'acteur aussi. Et alors, Vision perdue, c'est quand même un festival entre les valeurs sûres, Depardieu, et voilà, il y a les vieux et les jeunes. Et les jeunes, il y a Benjamin Voisin, qu'on avait vu déjà en début d'année dans Un vrai bonhomme, et dans le film l'année précédente dans le film de François Ozon, était 85. Et là, il est vraiment formidable dans le rôle de Rubin Pré. Vincent Lacoste, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi bon. Et puis, il y a une révélation d'une jeune comédienne qui s'appelle Salomé De Vels, qui est le seul cœur pur dans cette histoire de personnalité corrompue, et qui a déjà, elle a un physique assez original pour une jeune actrice de sa génération, et elle joue vraiment formidablement bien. Elle apporte une émotion incroyable à ce film.
Elle fait penser à Emily Deakin un peu.
Oui, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment cet esprit-là, et c'est vraiment l'esprit d'un grand film, très ample. Ça dure 2h30, mais on voit pas le temps passer. Non. Et surtout, voilà, cette reconstitution historique, on a l'impression que c'est fait aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas le côté poussiéreux, académique qu'il peut y avoir dans beaucoup de films historiques. Donc, c'est vraiment un très, très grand plaisir.
Merveilleuse Thévenin, merveilleux Depardieu, merveilleuse Balibar.
Mais Balibar, voilà, vraiment, ça, c'est un. Ça, et il y a Xavier Dolan aussi, dont on oublie que c'est quand même un excellent acteur.
Et là,
il est vraiment, vraiment génial aussi.
Lui, plus il fait de films, plus il affine et intensifie sa façon de les faire. Jamais comme les autres, c'est Mathieu Amalric dans Serre-moi fort.
Alors Serre-moi fort, voilà. Donc c'est un film à la Amalric, c'est-à-dire un récit un peu déconstruit avec une narration un petit peu complexe, et en même temps c'est un vrai mélo. Mais alors vous pouvez emmener un gros paquet de mouchoirs. Hein. C'est vraiment un film bouleversant. Et voilà, et il confirme aussi, lui aussi, c'est un très grand directeur et acteur, avec peut-être une des actrices que je trouve la plus intéressante aujourd'hui, c'est Vicky Krieps, l'actrice luxembourgeoise qu'on avait découvert dans Phantom Shred de Paul Thomas Anderson, qu'on a revu cette année dans Bergman Island de Mia Hansen Love, et là elle est vraiment géniale, dans le rôle de cette femme qui fuit quelque chose, dont on ne sait pas trop quoi. Donc là, je ne vais pas spoiler non plus, parce que c'est quand même le grand intérêt du film. Et voilà, c'est un film vraiment d'une délicatesse infinie, qui joue beaucoup sur la musique aussi. Et puis, alors, Alex parlait de Drive My Car.
Et c'est l'autre grande voiture rouge du
cinéma. Voilà, c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, c'est deux films qui sont faits à des continents d'écart.
Oui.
Ils communiquent entre eux d'une manière assez belle, parce que ça se passe dans une voiture rouge, et avec une scène un peu équivalente où, dans Drive My Car, le personnage du metteur en scène écoute la voix de sa femme décédée, qui était pour répéter son texte. Et dans Serre-moi fort, le personnage de Vicky Krieps écoute sa petite fille qui joue du piano. Voilà, je n'en dis pas plus.
Bravo,
j'ai trouvé ça vraiment bouleversant de voir ces deux films qui sont parmi les deux plus beaux films de l'année qui parlent entre eux.
Votre troisième choix, c'est First Call de l'américaine Kelly Ricard. Alors d'abord, c'est une très grosse surprise au box-office, c'est le résultat d'un grand travail de distributeur.
Voilà, alors ça, mon choix, c'est à la fois un choix artistique, c'est vraiment un très beau film, et alors c'est un petit miracle. Ouais. Il en faut quand même dans cette année difficile pour le cinéma et pour les exploitants de salles. Donc il faut vraiment saluer le travail du distributeur qui s'appelle Condor, parce qu'à la base, le film a été acheté par une plateforme qui est Mubi. Et Condor s'est battu pour que le film puisse malgré tout sortir en salle. Absolument. Donc ils ont investi, parce qu'ils croyaient au film. Et en fait, là, la presse a joué le jeu, parce que je pense que tout le monde, Condor a appelé toute la presse critique, la presse cinéma en France, en disant ne parlez pas du film quand il va arriver sur Mubi, parce qu'il est arrivé en Mubi au mois de juillet, attendez que le film sorte en salle. Et on a joué le jeu.
Oui.
Et le film était très attendu. Des gens l'ont vu sur Mubi et ils se sont dit que quand même le film est tellement beau, on va aller le revoir en salle. Et à l'arrivée, le film va sans doute atteindre les 100 000 entrées, ce qui est totalement inespéré. Ouais. Et c'est quand même une très belle histoire et je pense qu'il fallait vraiment le saluer. Par ailleurs, c'est un western contemplatif. Qu'est-ce que
de cinéma.
Ou Jordan.
J'ai pas vu le film, mais on dit First Cow.
Ouais, j'étais sûr. Et la réalisatrice.
Boom.
Allez-y.
Kelly Reichardt.
Oui, d'accord, c'est ça. On a tout faux.
Et ben maintenant,
juste un petit mot pour dire que La Loi de Téhéran, on peut le voir désormais en Blu-ray DVD chez Wildside.
Oui, bien sûr. On a bien dit La Loi de Téhéran, ça va. Maintenant, les livres recommandés. Tiens, on va commencer avec vous, l'Américain Jordan Minder, un livre sur Maurice Pialat.
Chabrier, qui était un musicien très doué, qui est loin de faire la carrière qu'il aurait dû faire. Disait de certaines musiques, c'est la musique que c'est pas la peine. Et j'ai toujours beaucoup aimé cette définition. D'abord, quand on sait les musiciens qui ça s'appliquait, ça est très juste. Et Bon, moi, c'est ça, la nouvelle vague, entre autres. Mais presque tout le cinéma, c'est du cinéma que c'est pas la peine, quoi.
Voilà, le gentil Maurice Pialat. Maurice Pialat, La main, les yeux, publié chez Capricci,
oui,
Jordan.
Écrit par Jérôme Momcelovitch.
Oui.
Voilà, c'est bien prononcé. Non, oui, moi, j'étais fasciné par ce livre parce que, c'est à la fois un livre biographique, on a beaucoup d'informations, il était aux archives, il a vraiment fait la recherche d'un biographe, mais en même temps, c'est une étude critique, et c'est écrit, et c'est vraiment un plaisir, c'est presque comme des aphorismes, on peut dire, des petits textes comme ça, c'est assez court, le livre, c'est 120 pages, et surtout, on va creuser dans tout le travail de Pierre-là, mais, à travers des petites pensées, des petits paragraphes, des petites touches. J'ai jamais vraiment vu un livre sur un cinéaste écrit de cette façon. Et c'est surtout ça m'a donné envie de revoir ses premiers films. Il parle beaucoup de L'amour existe que j'avais jamais vu, qui est son premier court métrage. Et il utilise cette œuvre comme un peu l'œuvre clé pour découvrir le reste de l'œuvre de Pierre-là. Donc je recommande vraiment. Le livre est sorti avec la ressortie de Van Gogh. Donc et il en parle beaucoup aussi.
Maurice Pialat, La main, les yeux, publié chez Capricci. Samuel, vous avez choisi les mémoires d'un acteur, celle de David Niven, publié chez Seyé.
C'était deux livres qu'avait écrit David Niven au début des années 70, qui étaient épuisés depuis bien longtemps, et là qui ont été réunis par l'éditeur Seyé. Donc, alors c'est un gros pavé, ça fait 900 pages, mais alors ça se dévore.
Extrêmement drôle.
Parce que David Niven est quand même un vrai conteur. Il a une vie assez folle. Je suis pas sûr qu'il ait vécu tout ce qu'il raconte. Mais comme disait John Ford, quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende. Alors après, voilà. Donc avant d'être acteur, il a été militaire, mais un peu rétif à la discipline, on va dire. Il a été champion de rodéo. Il a vendu du whisky aux États-Unis. Enfin, voilà. Il a fait plein de choses. Et puis, pendant la guerre, il a quand même participé à une opération de déstabilisation des Allemands. Il a formé un comédien qui ressemblait au général Montgomery pour qu'il soit vraiment son sosie et pour qu'il puisse faire une opération d'intoxication des services secrets allemands. Enfin voilà, il a une vie folle. Et la première partie du livre, c'est plutôt vraiment sa vie. Et la deuxième partie, c'est plutôt ses souvenirs à Hollywood et des portraits de personnalités, de réalisateurs comme John Huston ou des commères d'Hollywood. Et il raconte des histoires complètement dingues. C'est vraiment un très grand plaisir de lecture.
David Niven, Mémoire chez Seguier. Et vous, Alex ?
Écoutez, j'ai une surprise pour vous. J'ai choisi un livre qui s'appelle François Truffaut, film par film, signé Laurent Delmas et Christine Masson. Un beau livre qui raconte l'histoire de chacun de ces 25 films, tous à peu près autobiographiques, traversés par des thèmes comme l'amour et l'enfance. Aussi érudit qu'accessible, très bien illustré. Vous connaissez les auteurs, donc je vous apprends rien. Et avec une très belle préface d'Arnaud Desplechin.
Remercie encore, voilà.
Que j'ai devant mes yeux et qui écrit « Chaque cinéphile joue avec lui-même un drôle de jeu et lire son Truffaut préféré ». Vous voulez qu'on joue ? Vite fait. Samuel ?
Les deux Anglaises et le continent.
Jordan ?
Tirer sur le pianiste.
Oh, mais oui, c'est le mien aussi.
Aujourd'hui, la femme d'à côté.
Tirer sur le pianiste, Jordan a raison, c'était une grande redécouverte.
Moi, je vais choisir, c'est pas son meilleur film, mais j'aime beaucoup, j'ai un faible pour L'homme qui aimait les femmes.
Oui, mais bien sûr.
Et si vous voulez vous les faire dédicacer, il paraît qu'il y a une dédicace cet après-midi à la Galerie du Cinéma, 26 rue Saint-Claude, dans le Marais, à Paris, de 16h à 18h.
Merci Alex. Vous avez aussi un livre sur le giallo.
Ah oui, super, un super livre sur les giallo qui s'appelle L'ultima maniera, oui. Le giallo, je le prononce à l'italienne déjà. Un cinéma des passions par Alice Laguarda aux éditions Rouge Profond qui raconte qui fait une analyse extrêmement pointue et complète autour de ces genres qui émergent dans l'Italie des années 60 en rupture avec tous les cinémas de la période mussolinienne.
Laurent, un gros coffret western.
Oui, un deuxième volume des grands classiques du western, 20 grands films, 20 grands westerns remasterisés avec le casting. C'est John Wayne, Mitchum, Cooper, Dietrich, Lancaster, Stanwyck, enfin bon, avec Walsh notamment à la caméra. Il y a à chaque fois un bonus de Patrick Brion et c'est très émouvant de Bertrand Tavernier. 20 bonus par Bertrand Tavernier, c'est vraiment magnifique à écouter, à voir. Ce sont des perles, des raretés aussi, des découvertes. Franchement, si vous aimez le western, c'est le cadeau à faire pour cette fin d'année. Et c'est chez Sidonis, les grands classiques du western, volume 2. 20 grands films remasterisés.
Voilà. Samuel Douer, alors ça c'est un DVD, un coffret énorme, c'est celui de Outrage de Brian De Palma.
Ah oui. Ouais, qui est un film maudit de Palma, qui s'arrive sur un épisode assez particulièrement atroce de la guerre du Vietnam, où c'est, il raconte l'enlèvement, le viol et le meurtre d'une jeune vietnamienne par 5 GIs. Ouais. Et voilà, donc le film a eu un succès, enfin c'était un bide noir pour De Palma, pardon. Ouais. Accueil critique très difficile aussi. Or le film est quand même, c'est un des grands films sur la guerre du Vietnam qui a eu le tort de sortir bien après des chefs-d'œuvre comme Voyage au bout de l'enfer. Mais le film est vraiment très très fort, et c'est White Side qui sort ça avec vraiment un accompagnement critique qui est formidable, un coffret et un livre qui est une version un peu condensée d'un livre qu'a écrit un certain Nathan Rera, qui avait vraiment raconté la genèse du film, vraiment une espèce de somme sur le film, dont il a repris les meilleurs extraits avec une très très belle photo. C'est vraiment un très bel objet et un très beau film.
Vous aviez un autre coffret.
Oui, alors un autre coffret, donc chez Carlotta, qui est un des grands éditeurs de DVD en France, c'est L'Échine du Diable, un film de Guillermo del Toro que j'aime beaucoup. C'est un film fantastique, un film de fantôme, mais à la del Toro. C'est-à-dire c'est un film où le fantôme, il fait moins peur que pitié. Et surtout, ce sont les vivants qui sont beaucoup plus terrifiants que les morts. Donc c'est un film qui se passe pendant la guerre civile en Espagne. Une histoire d'orphelinat avec un fantôme. Voilà, c'est un film vraiment très émouvant. Et là, c'est pareil, très bel appareillage critique, des textes vraiment d'une très grande analyse critique du film. Une superbe interview de Guillermo del Toro dans le livre qui accompagne ce DVD. Et des super bonus sur les effets spéciaux. Enfin, c'est vraiment un très bel objet.
Moi, je signale.
Et vous, Christine, oui, vos plus belles années. Allez-y, dites-nous tout.
Justement, nos plus belles années de Sidney Pollack, aussi chez Wild Side. Vous avez l'histoire d'amour entre une militante communiste et pacifiste et un charmeur désinvolte, c'est Barbara Streisand, et bien sûr Robert Redford. C'est pendant le McCarthyisme. Le coffret est génial, il y a un livret avec des photos incroyables du tournage, du film. Plein d'anecdotes, j'adore celle-là. Les deux acteurs ne s'entendaient pas du tout au début, ils préféraient chacun leur profil gauche, ce qui était un petit peu compliqué pour le chef opérateur. Et Redford, il n'en pouvait plus parce que Barbara Streisand parlait beaucoup, il l'appelait Blabla Streisand. Bon, après, ça s'est mieux passé. Non, le coffret est magnifique, nos plus belles années, Sidney Pollack. La plus belle image de cinéma, c'est quand même Redford dans son uniforme blanc, endormi au bar. Ça, il est absolument magnifique. On va terminer par un compositeur.
En musique. On termine en musique, comme
on
il se doit.
On termine en musique.
Bien sûr, on écoute.
Est-ce que vous connaissez la BO, là, Jordan ? Alex ? Samuel ?
Aucune idée.
Un film avec Lino Ventura et Marlène Jobert.
De José Giovanni.
Dernier domicile
connu. Bon, ça fait partie effectivement de ce coffret de 5 vinyles, et je trouve que le vinyle va bien à Deroubé, parce qu'il y a un côté vintage. Ça s'appelle Deroubé, compositeur et aventurier. 3h30 de musique pour Enrico Giovanni et beaucoup d'autres, avec même Delon qui chante, tenez-vous bien. Un livret de Le Rouge, de Stéphane Le Rouge, toujours formidable évidemment. C'est une sorte de pape de la pré-musique électronique. C'est absolument inventif, c'est étonnant, c'est bricolé parfois, mais terriblement aussi maîtrisé musicalement. C'est édité par Universal.
Toutes ces infos, tous vos choix seront sur notre site, bien sûr. Vous restez avec nous, j'ose même pas annoncer qui va chanter, j'ai peur de me faire engueuler par Jordan. Elle s'appelle Célassou avec Toby, et le titre s'appelle Hurray, H-U-R-A-Y, Hurray.
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 Hurray. Hurray.
Got the whole world staring at you. You think it all stops spinning while you close your eyes. You spend all your time trying to make me jealous of you and showing off that beauty that you don't really have. All I see is your mistakes. It's giving me a headache. Yeah.
your attention seeking and you live for the love. Just you sleeping now. I can't figure out, yeah, if I pull at the seams, will you fall apart and show beauty only goes skin deep? Everything I see is fake. It's giving me a headache. Every minute, every day, it's so hard to get away, get away, get away, get away, yeah. From what it says about me, I'm judging everybody when I'm just as guilty. Get away, get away, get away, get away, yeah. From what it says about me, don't want nobody to see I'm just as guilty. So please treat me. Come on, say it, don't get it away.
Les sorties de ce mercredi, on va commencer, tiens, par cette femme du monde de Cécile Ducrot avec Lorca Lamy à Strasbourg. Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et surtout, elle a un fils, Adrien, 17 ans. Et pour assurer son avenir, Marie veut lui payer des études. Il lui faut de l'argent, vite, sincère, comme son héroïne. Et dominée, bien sûr, par l'interprétation incroyable de Lorca Lamy, Laurent.
Oui, moi, je trouve que c'est un premier long, très prometteur qui découle d'un court-métrage avec Lorca Lamy qui avait été très remarqué au moment de sa sortie. Et je trouve qu'elle évite notamment la tentation trop documentaire par rapport à son sujet, la prostitution, une mère et son fils seuls et qui essayent de favoriser ses études. Tout ça est dit, tout ça est montré avec beaucoup de réalisme, hein, mais il n'y a pas effectivement, et tant mieux, le côté programme sur la prostitution en France dans les années 2020. Voilà, donc c'est pas ça qui est montré. C'est un portrait de femme et évidemment, je crois qu'il faut y vraiment y insister, il est incroyablement porté par Lorca Lamy qui, comme dans Antoinette dans les Cévennes, transcende en quelque sorte le film. C'est-à-dire qu'elle est de toutes les images, de tous les instants, et elle a une sorte d'énergie vitale qui émerge à chaque instant, qui est tout à fait bluffante à mon sens, franchement. Et on lui espère de plus en plus de rôles de ce point de vue-là fort, c'est-à-dire que pour l'instant, ça a été un petit peu en retrait. Là, avec Une femme du monde, je trouve qu'elle franchit une étape supplémentaire.
I'm on ride, j'espère que je... pas dans un film américain de Tyler Terminal, Laurent.
Oui, mais alors ça pourrait être dans le, vous savez, dans le résumé du film, ça pourrait être un film roumain parce qu'on pourrait dire 2 semaines, 110 acteurs, 50 lieux de tournage. C'est incroyable. Premier long d'une réalisatrice et voilà le palmarès en quelque sorte, quoi. Alors on va laisser en parler Jordan parce que c'est un premier film américain vraiment très très intéressant.
Oui, surtout ça commence, on pense qu'on va avoir un teen movie à l'américaine. Ça m'a fait penser un peu à Richard Linklater, Dazed and Confused, des films sur des lycéens qui vont, on pense au prom, grande danse de bar de la fin de l'année. En fait, ça glisse complètement vers autre chose, qui est plutôt de côté de David Lynch, franchement, où en fait, c'est presque une étude documentaire sur ces vies un peu brisées d'adolescents. Et même techniquement, ça change complètement la lumière, ça change de quelque chose de très idéaliste, de quelque chose de très sombre. C'est un vrai ovni, et c'est assez rare de voir un film, on sait vraiment pas ce qui va se passer, surtout dans un film américain que, à la base, aurait pu être un film plutôt classique, et ça glisse vers autre chose. C'est vraiment intéressant, je l'ai vu en salle, ça vaut la peine.
Un peu décevant, Les Amants Sacrifiés de Kiyoshi Kurosawa, un film d'espionnage au cœur de la Seconde Guerre mondiale, où l'histoire d'un couple dans la tourmente et cette question, sacrifier son sentiment au nom de, ses sentiments au nom de la politique.
Un peu décevant par rapport à ce qu'a fait ce réalisateur auparavant. C'est-à-dire qu'il nous avait habitué à énormément de surprises oniriques, notamment. Oui. Et là, on est dans une sorte de presque platitude de films d'espions et d'époque. On voit bien que c'est pas ça qui l'intéresse principalement, mais c'est plutôt l'histoire d'amour. Mais c'est dommage qu'il ne retrouve pas ses inspirations précédentes. On est un petit peu déçu. Enfin, moi,
déçu et d'autant plus frustré que c'est, il faut savoir que le scénario de ce film, c'est Ryusuke Hamaguchi, donc le réalisateur de Drive My Car dont nous avons parlé, dit le plus grand bien. Et moi, j'attendais beaucoup de la...
Alors, ceci dit, c'est pour la télé. C'est oui, à l'origine pour la télé.
Donc ceci, ça change grand chose parce que Kurosawa avait fait un super film pour la télé qui s'appelait Shokusai, qui était
c'est
génial.
Vrai,
donc
c'est vrai. Vous avez raison.
Mais là, c'est le fait que vraiment que ces deux grands cinéastes qui collaborent ensemble, ça a quelque chose de formidable. Et en fait, je pense qu'ils se neutralisent un peu, quoi. Et ça, à l'arrivée, oui, c'est il y a des très belles choses et en même temps, c'est un peu froid, un peu décevant.
Un film d'animation signé Harry Folman où est Anne Frank avec Kitty, l'ami imaginaire d'Anne Frank.
Ben pour moi, le vrai titre du film, ça devrait être Où est Harry Folman, parce que vous voyez. Quand même, dans cette espèce de tentative incroyable de parler du journal d'Anne Frank, d'abord, je suis pas sûr qu'il faille le faire, mais
tu
bon.
Tu restes amère.
Franchement. Non, mais honnêtement, bon, c'est moi, la question que je me suis posée en sortant de la salle. J'étais tout à fait honnête et sincère. Mais cette façon de vouloir à tout prix, comparer, mêler, agréger, l'histoire de la Shoah et le sort des migrants actuels, moi, ça ne fonctionne pas et je trouve que c'est au forceps. Je trouve que c'est une façon de tordre les réalités d'hier et les réalités d'aujourd'hui. Et franchement, oui, où est Harry Folman et rendez-nous Valls avec Bachir, c'est-à-dire une belle complexité sur des réalités actuelles sans essayer de tordre le réel à ce point-là.
Alors, je serais un petit peu moins sévère quand même. Le film, effectivement, est un peu bancal. Je pense que c'est le fruit d'une production très compliquée. Le film avait 8 ans à se faire avec plein de coproducteurs. Enfin, ça a été quand même une aventure, ce film. Il y a quand même des choses assez réussies, je trouve, maintenant, le passé, surtout quand il met en scène l'imaginaire de Anne Frank, quand elle voit la représentation des nazis, par exemple. Je trouve qu'il y a des idées graphiques, quand même, qui sont assez intéressantes là-dessus, même si je partage effectivement vos réserves, notamment sur la vision du présent, oui, qui est un peu fade.
Un premier film signé Aurélie Saada, Le portrait d'une veuve, c'est Rose, et c'est Françoise Fabian, et c'est surtout elle, le film, Laurent.
Ah bah oui, mais là, je suis comme Antoine Douanel, hein, Françoise Fabian. Non mais voilà, c'est ça qu'on en... c'est extraordinaire quoi cette actrice. Il faut l'employer beaucoup plus encore parce que elle a tant donné déjà au cinéma, mais et là elle est de tous les plans, de tous les instants, avec une rencontre aussi, il faut le dire, avec Michel Moretti qui joue merveilleusement bien la rousseur de Marceline Loridan, oui. Et la rencontre de ces deux actrices d'exception est formidable. Le reste est un peu un programme déjà vu de La vieille dame indigne, mais c'est pas grave, on adore Françoise Fabian.
Michel Moretti était chez Salvadori, déjà merveilleuse.
Mais comment donc ?
Au cœur du bois de Klaus Drexel, Bois de Boulogne, Samantha, Isidoro, Geneviève et les autres font le plus vieux métier du monde, entre confidence, humour et dignité.
Oui, alors, sur le fond, il n'y a aucune réserve à avoir, c'est intéressant parce que c'est effectivement des portraits de prostituées de toutes origines, de tous âges, tous sexes, etc. Donc ça, le fond n'est pas douteux. Je veux dire, c'est vraiment, ça se suit. Après, il y a la démarche de Claude Drexel qui est une démarche à laquelle il tient, c'est-à-dire de faire de très 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 belles images sur des réalités très 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 dures. Et bon, ça marche, ça marche pas pour certains. On peut être plus ou moins touché. Et là, pour le coup, moi, je le suis pas tellement. Et d'autant plus que dans ce bois de boulot, parce que c'est évidemment le cœur du bois de Boulogne, le bois existe finalement très peu, or ça pouvait être aussi un hors-champ à interroger et intéressant. Voilà, donc avec ces réserves-là, il n'empêche qu'au cœur du bois reste un beau documentaire.
L'homme qui penche, un autre documentaire, c'est très beau ce titre,
oui.
De Marie-Violaine Brincard et Olivier Durie, c'est sur Thierry Metz, poète et manœuvre.
Oui, j'avoue mon ignorance avant d'avoir vu ce film. Je ne connaissais pas ce poète et je l'ai découvert. Et croyez-moi, le film donne bigrement envie de le découvrir, certainement de le relire pour ceux qui le connaissent, parce que c'est une très très belle mise en avant et en valeur de son univers, avec quelque chose de très casse-gueule, de très difficile à faire, qui est de mettre des images de cinéma sur les mots d'un poète. Et ben, ils y arrivent très bien, ça marche formidablement bien, et on a vraiment envie de se plonger dans l'œuvre de Thierry Metz.
Lingui, les liens sacrés de Mohamed Saleh Haroun, qui était à Cannes dans les faubourgs d'N'Djamena au Tchad. Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de 15 ans. Son monde s'écroule le jour où elle découvre que sa fille est enceinte dans un pays où l'avortement est non seulement condamné par la religion, mais aussi par la loi. C'est un grand geste politique, ce film, dont la forme n'est pas forcément à la hauteur de l'enjeu.
Ben oui, c'est ça. On est un peu quand même interloqué devant tant de sujets. Viol, avortement, excision, domination patriarcale, masculine, familiale, policière, etc. Et on se dit, tout est là, mais rien ne se produit de cinématographique, vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas ému comme on pouvait l'être par Un homme qui crie, par un très grand film de ce cinéaste. Donc on est comme en retrait, et on est devant quelque chose dans lequel on ne rentre pas, et c'est bien dommage.
Ouais, c'est d'autant plus dommage que le film est plastiquement très beau.
Ouais. Magnifique.
Et en fait, ça ne marche pas. Il y a un vrai problème de direction d'acteurs, des actrices notamment. Certaines sont vraiment... ça joue faux, quoi. Et un problème aussi de passage de la langue du Tchad et au français, on comprend pas très bien pourquoi. On imagine que c'est des soucis de coproduction. Ben, ouais, le film est quand même très décevant par rapport à ce qu'a pu faire Mahamat Salehe.
Il y a quand même une fin sublime sur la sororité.
Voilà. Oui, ouais, c'est pas ça, le film est d'une certaine manière irréprochable parce qu'il raconte, mais un peu décevant sur la forme.
Les aventures d'Antoine Doinel, alors, voilà, ça ressort au cinéma, Laurent.
Oui, ça ressort dans des versions restaurées et aller les voir sur grand écran. C'est souvent des films, hein, les 400 coups, on les a vus dans des ciné-clubs sur le petit écran, etc. Mais finalement, assez rarement sur grand écran. Et puis, l'homicide conjugal, les baisers volés, etc. Donc, allez-y, parce que c'est vraiment de très, très belles ressorties, une belle occasion de redécouvrir ces films et puis de les montrer aussi. Allez au cinéma, hein, en ce moment, c'est le message principal. Hein. Allez au cinéma. Et ben, voir les aventures d'Antoine Doinel, par exemple.
Alors, ressorti aussi de Mulholland Drive, de David Lynch.
Bien sûr, par exemple, absolument.
Très bien, Brandon, c'est parfait.
non, c'était pas là-dessus. Vous l'avez revu récemment ou pas?
Non, ça fait longtemps, je pense. La dernière fois, c'était quand on est sorti en salle. J'ai vu deux fois, mais pas depuis.
Moi, je l'ai revu il y a quelques années pour présenter le film, justement, dans le cadre du festival Télérama. Et non, c'est toujours magnifique. Et c'est vraiment un film on n'épuise pas le film. Ouais. C'est-à-dire, on peut le voir, le revoir, on redécouvre à chaque fois des nouvelles choses, des nouveaux sens aussi.
On tourne toujours autour.
Je pense avoir trouvé à peu près ce qu'il voulait dire, mais il y a toujours dans les détails.
On en a besoin.
Et on a oublié le Spielberg. West Side Story. Alors, on a beaucoup parlé, c'est vrai, la semaine dernière. Ouais. Samuel.
Ah, moi, j'aime beaucoup ça. Ma grande surprise, parce que franchement, j'attendais pas grand chose d'un film. J'avais pas trop l'intérêt de refaire, hein, quand même, ce grand classique de la comédie musicale. Et je trouve qu'il le modernise de manière très intelligente, avec une mise en scène formidable. La plupart des comédiens sont très bons. Et il y a une idée, moi, qui m'a vraiment beaucoup ému, c'est de faire revenir Rita Moreno.
Oui.
Voilà, et qui se retrouve confrontée au personnage qu'elle jouait 60 ans plus tôt. C'est vraiment une très très jolie idée.
Alex, vous ne l'avez pas vu encore?
Je ne l'ai pas vu encore, non.
Et il est sorti en Espagne, d'ailleurs?
Il sort le 22 décembre.
Et aux États-Unis, il a dû sortir, bien sûr, j'imagine, France.
Oui, il est sorti là. Après, je pense que les chiffres paraissent. Hein, ça va. De toute façon, ce qu'on voit au box-office américain, c'est que tout ce qui est cinéma d'art essai se casse la gueule, mais complètement. Quoi. Ouais. Voilà,
alors, on va finir avec un festival.
Oui, les Arc Film Festival aux Arcs, qui commence aujourd'hui, qui se termine le 18 décembre. Focus, gros focus tout le temps sur le cinéma européen, présidé par Michel Hazanavicius. 80 longs métrages, 40 courts métrages, des masterclass, des ateliers. Là aussi, il faut aller aux Arcs pour voir des films et dans des bonnes conditions.
Merci Alex Vicente pour El País. Merci Jordan Minzer pour Le Boulot Reporter. Et merci Samuel Douer pour Télérama. C'était un plaisir de vous avoir.
Merci.
Et maintenant, on va dire merci à notre équipe, bien sûr, pour ce générique de fin. Merci à nos deux réalisatrices, Laurent Thomas et Claire Destacan. Merci à Christophe Magère qui a préparé cette émission et à Thierry Dupin pour la programmation musicale. On retrouve, je le répète, toutes les informations, Laurent, tous les films à voir en salle, en coffret, les livres, etc.
sur notre site et l'application France Inter, bien évidemment.
Merci, au revoir.